Il est 8h sur France Culture. Et voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La nouvelle qu'il attendait tant, François Hollande a l'intention de se relancer après la baisse historique du chômage le mois dernier, mais son retard dans les enquêtes de popularité est immense.
Chômage en baisse et frondeur moins bruyant hier lors du vote du dernier budget du quinquennat. Les opposants socialistes ont été bien moins nombreux que les années précédentes.
Nous retournerons dans la jungle de Calais où l'évaluation de l'âge des mineurs pose problème et l'enjeu est de taille. Les moins de 18 ans ont le droit de rejoindre leur famille au Royaume-Uni, pas les majeurs.
Dans l'actualité étrangère, après la bataille de Mossoul, objectif Raqqa en Syrie, c'est la stratégie des dessiné hier par la coalition internationale.
Et nous irons à la fin de cette édition aux États-Unis pour suivre la course à la Maison-Blanche. Une forte augmentation des tarifs de l'Obamacare a surgi dans la campagne. Un argument inespéré pour un Donald Trump en difficulté. Il ne pouvait espérer mieux. François Hollande tient enfin sa baisse du chômage, celle sans laquelle aucune candidature à sa réélection n'est possible. Pôle emploi a publié hier les chiffres de septembre. Jamais le chômage n'avait autant reculé depuis 20 ans. 66 000 inscrits de moins dans la catégorie A. À l'Élysée, on a dû pousser un immense ouf de soulagement, Ludovic Piétenu.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Ces chiffres du chômage sont les avant-derniers avant que François Hollande n'arrive, début décembre, sur la période de dépôt des candidatures à la primaire de la gauche, période à laquelle il devra se prononcer sur son avenir. Il pourra alors, même si les chiffres sur le long terme sont têtus, poser un discours plus positif sur son action et sur sa lutte contre le chômage. C'est au moins un outil en sa faveur pour lui permettre d'entamer son opération séduction. Car c'est la mauvaise nouvelle, mais il le savait déjà, il part de très loin. L'autre chiffre du jour, c'est ce 4%. 4% seulement de Français satisfaits de son action, selon le baromètre mensuel dressé très sérieusement pour le Cevipof et Le Monde par Ipsos. 3 fois moins de satisfaits qu'il y a un an après les attentats de novembre, où il ne suscitait déjà guère l'adhésion de plus de 12% des personnes interrogées. C'est entre novembre et mai dernier que le fossé s'est creusé. Depuis, la courbe ressemble à un encéphalogramme plat. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, ça n'imprime plus. Il y a un problème d'incarnation, une distance qui s'est créée avec le président et avec la gauche, s'attristait hier Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale. Hollande va bien essayer de renouer le contact avec les Français dans les 6 semaines qui lui restent, promet son entourage. Dans la lutte contre le chômage, disait en 93 François Mitterrand, face à 3 millions de chômeurs, on a tout essayé. En matière de reconquête de l'opinion, on dirait bien que François Hollande a lui aussi tout essayé.
Compliqué vis-à-vis de l'opinion, un peu moins avec les frondeurs. C'était l'autre nouvelle relativement bonne de la fin de journée hier. Le vote du dernier budget du quinquennat de la partie recette, il prévoit une nouvelle baisse des impôts sur le revenu pour les classes moyennes, un déficit public ramené à 2,7% sous la barre des 3% donc exigée par la Commission européenne. Et ce projet de loi de finances a été adopté avec une majorité un peu plus large que l'an dernier. Les frondeurs semblent être rentrés dans le rang, Boris Allier.
Ils étaient 39 socialistes à s'abstenir il y a 2 ans sur le budget 2015. Seulement 16 hier, dont leur chef de file Christian Paul, éternel frondeur qui n'a donc cette fois pas autant mobilisé. Ce n'est de toute façon pas l'objectif. Pas le moment, Pascal Cherki, député de Paris.
C'est pas à 6 mois d'une élection présidentielle qu'on va demander à un gouvernement de changer radicalement de cap, donc c'est la raison pour laquelle je ne l'exprime pas aussi fortement qu'avant, parce qu'avant ça avait un sens d'essayer de créer un rapport de force, faire bouger les lignes. Par contre, le gouvernement maintient sa cohérence sur le budget, moi je maintiens ma cohérence dans mes votes.
Si les socialistes ont été moins nombreux à s'abstenir, c'est aussi parce qu'ils ont obtenu gain de cause sur certains points. Retour en arrière sur les avantages accordés aux attributions d'actions gratuites, élargissement de la taxe sur les transactions financières et puis limitation de la hausse de la redevance à 1 euro. De quoi apaiser certains députés comme Jean-Marc Germain, ancien abstentionniste, qui évoque sans grand enthousiasme un budget correct. C'est de toute façon un budget de fin de règne, rappelle Pascal Cherki.
Soit la droite gagne l'élection présidentielle, elle fera un projet de loi de finances rectificatif, ce ne sera pas le même budget qui sera exécuté. Soit nous gagnons, la gauche, avec un autre candidat que François Hollande, gagne l'élection présidentielle, nous ferons un projet de loi de finances rectificative et ce n'est pas ce budget-là qui sera exécuté. Soit François Hollande gagne l'élection présidentielle, il pourra bien être amené, en fonction de ce qu'il dira dans la campagne, à faire des correctifs. Ce budget qu'on va voter là ne va pas être forcément le budget qui sera exécuté.
Épreuve d'un certain désintérêt, certains frondeurs n'ont pas fait le déplacement à l'Assemblée hier, préférant profiter de vacances en famille.
Alors, dans l'agenda du jour de François Hollande, pour amorcer le rebond qu'il souhaite tant, le président rendra hommage à son prédécesseur, François Mitterrand, allocution en fin d'après-midi au musée du Louvre pour le 100e anniversaire de l'ancien chef de l'État. François Hollande doit enchaîner après avec les syndicats de policiers pour tenter de calmer leur colère. Cela fait 10 jours que des fonctionnaires manifestent chaque nuit par centaines partout en France, sans déclaration préalable en préfecture, sans cadre syndical non plus. Les organisations syndicales qui tentent de reprendre la main en vain sur le mouvement, les rassemblements d'hier ont été peu suivis. Le gouvernement, lui, a déjà fait des propositions aux policiers. Un aperçu avec Nathalie Hernandez.
Le ton se veut rassurant, le soutien indéfectible. Depuis quelques jours, le ministre de l'Intérieur, son directeur général de la police nationale, multiplie les échanges et les propositions. Des concertations ont commencé depuis lundi. Les tâches indues, comme les gardes statiques ou la protection de personnalité, vont être revues à la baisse, a promis le patron de la police, Jean-Marc Falcone. Certaines surveillances, comme celle des détenus hospitalisés, pourraient être confiées à des entreprises privées. Selon le DGPN, elle mobilise à elle seule 300 policiers. Des renforts sur le terrain doivent arriver avec 1 millier de gardiens de la paix avant la fin de l'année et 5 000 autres en 2017. Jean-Marc Falcone annonce aussi le renouvellement total des véhicules. Il n'y a plus aujourd'hui que 800 voitures, dit-il, qui affichent plus de 200 000 km au compteur. Idem sur le matériel et les armes avec la modernisation du système d'échange radio, l'arrivée de tablettes tactiles, de lanceurs de balles plus précis et d'armes longues. Il reste maintenant un défi majeur, celui de renouer la confiance avec la hiérarchie, la base et les organisations syndicales.
Et retrouvez un dossier complet sur le malaise des policiers sur notre site franceculture.fr. Le ministère de l'Intérieur en première ligne également à Calais. La destruction des cabanes des migrants a commencé hier dans la jungle. Au total, plus de 4000 étrangers ont accepté d'être emmenés pour l'instant dans un centre d'accueil. Mais une polémique enfle depuis hier sur le sort des mineurs. Leur âge peut leur permettre de traverser la Manche direction le Royaume-Uni s'ils ont de la famille là-bas au titre du regroupement familial. Mais comment déterminer qu'ils ont moins de 18 ans? La préfecture du Pas-de-Calais et l'association France Terre d'Asile sont accusés d'aller un peu vite dans la sélection. C'est un reportage à Calais de Thibault Lefebvre.
15 ans pour ce mineur éthiopien. Il est autorisé à pénétrer dans le hangar pour un entretien avec les autorités françaises et britanniques. D'autres comme Maïwan ont eu moins de chance. Cet Afghan vit depuis 6 mois dans la jungle.
J'ai 16 ans et 8 mois. J'ai été devant le hangar et ils ne m'ont pas cru.
Des méthodes de sélection très critiquées et notamment par l'ONG Médecins Sans Frontières. Franck Esnay a observé pendant une heure l'organisation du dispositif d'orientation des mineurs. Il est chef de mission à MSF.
Moi, je viens d'assister effectivement à 10 jeunes sur un groupe de 30 qui ont été mis dehors sans information sur un possible recours, simplement parce qu'une jeune femme estime que ces jeunes sont majeurs. C'est insupportable.
Pour la préfète du Pas-de-Calais, Fabienne Bussiot, ce constat est né d'une incompréhension.
Il y a une rumeur qui s'est répandue au sein du camp, qu'il y avait une file UK, enfin Royaume-Uni, et une file France. Donc on avait une file mineure où il y avait 95% de majeurs. Donc bien sûr, à l'entrée, l'association disait « Monsieur, enfin, vous êtes manifestement majeur » et la plupart d'ailleurs ne le contestaient pas, comme si c'était trompé de file, ils sont passés dans la file d'à côté. Il ne fallait pas que tous les migrants deviennent des mineurs, sinon ça devenait ingérable.
Un argument insuffisant pour MSF, l'ONG a décidé de se retirer du dispositif mis en place par l'État.
Thibault Lefebvre à Calais. Et l'Italie veut que tout le monde participe à l'effort face à la crise migratoire. Le chef du gouvernement, Matteo Renzi, a même menacé hier de poser son veto au budget de l'Union européenne et de ne pas verser sa contribution si des pays comme la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie continuent de fermer leurs frontières. Si tu construis des murs contre les immigrés, tu peux oublier l'argent italien, a lancé Matteo Renzi. Aveu d'exaspération du gouvernement italien, submergé par les arrivées. Plus de 150 000 candidats à l'exil ont débarqué sur les côtes italienne depuis le début de l'année.
8h08 sur France Culture, la suite du journal. Amélie Perrier, on en vient logiquement au conflit qui pousse les civils à l'exode, à commencer par la guerre contre les djihadistes en Irak et en Syrie.
En Irak, d'abord, les forces de Bagdad avancent vers Mossoul, la deuxième ville du pays, à reprendre à Daesh. L'armée irakienne, appuyée par les combattants kurdes, les Peshmerga, et par la coalition internationale. Une coalition dont les ministres de la Défense étaient réunis hier à Paris. Un rendez-vous pour tracer la stratégie à venir après la bataille de Mossoul. Et l'objectif, très clairement, c'est déjà Raqqa, l'autre fief de Daesh, en Syrie cette fois. Simon Tivol.
Oui, depuis des mois, le président Obama freinait des quatre fers. Mais son ministre de la Défense, Ashton Carter, lui déclare que les préparatifs pour isoler Raqqa ont déjà commencé. Concrètement, cette nouvelle bataille pourrait débuter quand Mossoul sera sécurisée. Jean-Yves Le Drian a parlé de concomitance des opérations en Irak et en Syrie. Mais il y a un obstacle de taille. Qui va combattre à Raqqa? Réponse d'Ashton Carter.
Il faut des forces locales capables et motivées que nous identifions et auxquelles nous donnons ensuite les moyens. C'est ça notre approche stratégique de base. Ce que nous voulons, c'est vaincre Daesh à long terme, et pour le vaincre à long terme, il n'est pas possible de ne faire intervenir que des éléments étrangers au terrain. Il faut absolument que cela passe par des interventions de l'intérieur, donc des Syriens.
Le problème, c'est que la coalition manque dramatiquement d'alliés au sol, ce qui veut dire que le lancement d'une véritable opération de reconquête semble beaucoup plus lointaine, au risque de laisser les combattants de l'État islamique se réorganiser.
Et c'est un membre de la coalition parfois un peu gênant, la Turquie, dont la position vis-à-vis des Peshmerga kurdes n'est déjà pas simple, et dont la riposte au coup d'État de l'été dernier est régulièrement dénoncée par l'opposition. Aujourd'hui, c'est l'ONG Human Rights Watch qui condamne le régime turc pour des tortures et des maltraitances. Philippe Dan de l'organisation humanitaire a confié à Valentine Letesse la teneur des dizaines de témoignages recueillis.
Plusieurs dizaines d'anciens détenus, leurs familles, leurs avocats, des activistes de droits de l'homme, des juristes et des experts en médecine légale, tous nous ont apporté des faits qui étaient absolument cohérents et consistants. La police turque a pratiqué la torture et d'autres traitements mauvais sur un grand nombre d'individus qui ont été sous leur détention depuis le coup d'État de l'été dernier. Ce sont des positions de stress, des privations de sommeil, ce sont des violences très sévères à l'égard des individus, des abus sexuels, des menaces de viol. L'un des anciens détenu a affirmé qu'il avait les yeux bandés. Les forces de police lui ont demandé de commencer à parler, à exprimer ce qu'il savait, suite à quoi les policiers ont commencé à le battre sur le visage, sur les yeux, sur les pieds, sur l'estomac, et l'ont forcé en fait à faire des confessions.
C'est l'état d'urgence promulgué dans le pays qui lui donne carte blanche aux policiers.
En fait, les décrets d'état d'urgence eux-mêmes contiennent des dispositions qui sont extrêmement critiques. Ils permettent de maintenir en détention les individus pour des périodes allant jusqu'à 30 jours, y compris sans accès à un avocat jusqu'à 5 jours et dans de nombreux cas, nous avons documenté que ces périodes sont beaucoup plus longues que ce qui est même prévu par les décrets d'état d'urgence. Il y a aussi un système généralisé de crainte. La plupart des personnes qui ont vu les pratiques de torture, elles ont en fait peur d'être les prochains sur la liste des purges menées par le gouvernement.
Et suite au coup d'État raté de juillet, 35 000 personnes ont été arrêtées selon le ministère turc de la Justice. Au Venezuela, le bras de fer politique se tend entre le Parlement, dominé par l'opposition de centre-droit, et le président socialiste Nicolas Maduro. Hier, les députés ont voté pour l'organisation d'un procès en destitution de Maduro. Le président chaviste a riposté en accusant ses adversaires de préparer un coup d'État. Une crise politique sur fond de naufrage économique à cause de la chute du prix du pétrole, dont le pays s'est rendu entièrement dépendant. Plus que deux semaines avant de connaître le nom du futur président des États-Unis, dernière ligne droite pour Hillary Clinton et Donald Trump. Les deux candidats à la Maison-Blanche sillonnent en ce moment la Floride. Swing State est à clé où l'élection pourrait se jouer. Et Donald Trump, en retard dans les sondages, a trouvé hier un argument de campagne inespéré. L'Obamacare, la très polémique réforme de la santé de Barack Obama. Les tarifs vont sévèrement augmenter l'an prochain, autour de 22%. C'est le revers de la médaille. De plus en plus de patients atteints de maladies sévères peuvent accéder aux soins, mais du coup, la facture s'alourdit, surtout pour les classes moyennes supérieures. Hillary Clinton s'engage à corriger le dispositif. Donald Trump, lui, a fait de sa suppression son dernier cheval de bataille. C'est la correspondance de Frédéric Carbone.
C'est la mauvaise surprise d'octobre pour le portefeuille de l'électeur américain. Et à deux semaines du scrutin, Donald Trump pense enfin avoir trouvé un angle d'attaque efficace.
Obamacare is just blowing up.
L'Obamacare est en train d'exploser, lance le candidat républicain devant ses supporters en Floride. Et peu importe que cette augmentation moyenne de 22% ne concerne qu'une fraction des assurés sociaux, les 2 millions de personnes qui sont sur le nouveau marché créé par la réforme. Le candidat républicain généralise, il parle de chiffres truqués et d'augmentation de l'ordre en fait de 60%. Son équipe dénonce la flambée des tarifs dans les états clés du scrutin et Donald Trump connaît même personnellement des victimes de ce scandale.
All of my employees are having a tremendous problem.
Tous mes employés ont des problèmes énormes avec l'Obamacare, explique Donald Trump, qui prononce son discours dans un de ses hôtels Golf de Floride. Le problème, c'est que le patron de l'établissement précise que 95% des salariés ont une autre couverture maladie et ne sont donc pas concernés. Peu importe, répond l'entourage du candidat, de toute façon, on abrogera la loi.
Le correspondant de France Culture aux États-Unis, Frédéric Carbone. Et enfin, un coup de chapeau à François Angelier qui chroniquait hier matin sur France Culture le roman de Marcus Malt, Le Garçon. L'ouvrage a obtenu quelques heures plus tard le prix Fémina, un aérolithe qui vient de tomber dans nos plates-bandes littéraires. S'est réjouie Mona Ouzouf, la présidente de ce jury 100% féminin. À lire donc Le Garçon de Marcus Malt aux éditions Zulma. Et puis Zoé Sfez en reparle dans son journal de la culture à 8h45, Guillaume.
Et puis écoutez François Angelier, parce que maintenant c'est un véritable prophète.
C'est
et
un
vous,
prophète.
Vous pouvez l'entendre, c'est tout ce qu'il dit se réalisera.
6h25 tous les matins, François Angelier. Le temps de ce mercredi, toujours gris dans le nord, malgré quelques éclaircies et perturbées dans le sud-est. Les températures au petit matin seront comprises entre 5 et 10 degrés au nord, 9 à 12 au sud. Cet après-midi, on attend 12 degrés à Arras, 16 degrés à Paris, 17 à Lorient, 18 à Grenoble, 19 à Bayonne, 23 degrés à Marseille. Merci à Martin Descloseaux qui m'a aidé à préparer ce journal.